Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonsoir. 5 ans, ce sera demain matin sa dernière assemblée générale en tant que président du MEDEF. Pierre Gattaz va passer la main cet été. Oui, alors pour lui succéder, eh bien j'ai l'impression que tout le monde veut prendre sa place. Ils sont au moins 9 ou 7 à voir, hein, à briguer justement, eh bien la présidence du MEDEF. Élection le 3 juillet, dans un contexte un peu particulier, puisque depuis un an, Macron a exaucé une partie de ses revendications donc au MEDEF. Et puis en plein débat également sur l'objet social de l'entreprise. Hein, quelle image doit-elle avoir? Quel rôle doit-elle avoir? Vaste chantier. Alors pour le MEDEF, est-ce l'heure de vérité? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et Pierre Gattaz est avec nous, le président du MEDEF, invité des décodeurs de l'écho, qui a compilé eh bien ses 5 années à la tête du MEDEF dans Regard sur 5 années de combat 2013-2018, un petit livre bleu. Avec nous également Mathieu Jolivet, qui est reporter à BFM Business, Philippe Vivien, directeur général d'Alixio, cabinet de conseil en relations sociales, et Stanislas Guérini, député La République En Marche de Paris, qui a signé avec une centaine de parlementaires La République En Marche une tribune. L'heure de vérité a sonné pour le patronat. On verra justement eh bien ce qu'il demande, ce qu'il attend justement eh bien du futur président du MEDEF. Il y a une candidate quand même malgré tout qui postule à la suite de Pierre Gattaz. Alors on va y revenir justement sur votre bilan, Pierre Gattaz, dans un instant. Quelques questions d'actualité quand même. Autre assemblée générale, c'était celle d'Air France aujourd'hui, avec une nouvelle présidente non exécutive qui a pris la tête d'Air France-KLM provisoirement, c'est Anne-Marie Couder. Hein. Jean-Marc Jeannayac, est-ce qu'il avait pris la bonne décision de mettre sa place en jeu, justement, en organisant ce référendum il y a 2 semaines?
Écoutez, c'était un pari, on peut dire qu'il s'est trompé, mais moi je crois que c'était quelqu'un qui était de grande valeur, qui a voulu faire bouger Air France, qui l'a fait bouger, et qui est en voie de redressement, et malheureusement, ça n'a servi à rien, et je trouve que c'est un énorme gâchis. Il faut qu'on arrive à s'en sortir. C'est l'image de cette compagnie, c'est l'image de la France, puisque Air France porte aussi l'image de la France. Et nous sommes tous actionnaires d'Air France, puisque l'État a 17%. Donc tout ça nous concerne, et je crois qu'il faut vraiment que maintenant les décisions soient prises, et je fais appel à la responsabilité des gens, et notamment des syndicats.
À qui la faute principalement, Pierre Gattaz, à qui faire porter la responsabilité? Un syndicat, principalement le SNPL, qui fait un peu la pluie et le beau temps, donc sur l'avenir d'une grande compagnie mondiale, ou cette même grande compagnie mondiale qui, il y a quelques années, n'est peut-être pas pris forcément les bonnes décisions?
Écoutez, Air France, on connaît, ça fait des années qu'elle est soumise à une compétition internationale, mondiale, avec des acteurs low cost qui arrivent. Donc il y a des positionnements, il y a un positionnement stratégique, et il y a des coûts à maîtriser. Ensuite, il faut partager tout ça avec les pilotes, avec les salariés, ce que nous faisons dans nos entreprises. Et en général, on arrive, je dirais, alors bon an mal an, à s'adapter. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des blocages chez Air France depuis des années, et qu'il faut modifier cette organisation, cette société en profondeur. Il faut le faire par le dialogue le plus possible, par le débat le plus possible. Je crois qu'il y a eu de nombreuses négociations. Après, il y a des postures, il y a des blocages. Je ne vais pas aller dans le détail des blocages et des postures, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'une entreprise comme Air France est mortelle. On l'a vu avec la Paname, il y a 20 ou 30 ans, TWA, Swissair. Eh bien, si on ne s'adapte pas à un environnement concurrentiel qui est devenu extrêmement redoutable, et où il y a une position, une place pour Air France dans le futur, je crois que le premium fonctionne, mais il faut s'adapter, il faut accepter les adaptations et les modifications, sinon on meurt.
Philippe Vivien, c'est au spécialiste des relations sociales que je m'adresse. C'est bien d'organiser un référendum dans l'entreprise pour essayer de sortir d'une telle crise ?
Je ne sais pas si c'est bien, mais c'était, je crois, assez nécessaire. C'est-à-dire, ce qui est très compliqué dans une entreprise comme celle-là, c'est qu'il y a effectivement ce sorte de mythe de l'immortalité, alors qu'on sait tous que ce n'est pas le cas. Et ce qu'on voit tous, c'est que c'est une entreprise qui, quand elle s'est transformée sur la base d'électrochocs. Mmh. Souvenez-vous ce qu'avait fait Christian Blanc il y a quelques années. C'est le premier moment où les choses ont vraiment évolué chez Air France, et on voit bien que depuis, à force de négociations qui n'ont jamais réussi à trouver de véritables solutions, on n'a pas réussi à changer les choses. Vous parliez des États-Unis. La grande différence avec les États-Unis, c'est quand une compagnie aérienne va mal, elle passe en chapter 11. Et à ce moment-là, toutes les cartes sont rebattues. Et le drame d'une compagnie comme Air France, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les solutions de régulation interne qui permettent de rebattre les cartes.
Le référendum d'entreprise, vous êtes pour ou pas, Pierre Gattaz?
Je pense que ça peut aider. Alors après,
à la SNCF aussi ou pas?
La SNCF, c'est totalement différent. La SNCF, c'est l'État qui est, et la loi est passée. La loi a été votée. Donc je dirais, faire un référendum alors que la loi a été votée, que les débats ont eu lieu, ça me paraît totalement inutile.
Stanislas Guérini.
Je crois qu'effectivement, c'est très différent puisque c'était un référendum d'entreprise qui avait été lancé à l'initiative du chef d'entreprise. Donc je crois que c'était une décision courageuse de le faire. Le résultat, effectivement, est terrible pour l'entreprise Air France parce qu'il y a maintenant un défaut de gouvernance pour cette entreprise. Je crois qu'on va parler tout à l'heure d'intérêt social des entreprises. Bien, moi, j'appelle chacun aujourd'hui à penser à l'intérêt social de l'entreprise Air France. Vous l'avez dit à juste raison, c'est une entreprise qui est mortelle. Il faut penser aux salariés d'Air France, il faut penser aux usagers d'Air France. C'est une grande entreprise, elle a toute sa place dans le secteur très concurrentiel aérien aujourd'hui. Il faut que chacun des acteurs pense à l'intérêt social de cette entreprise.
Pierre Gattaz, l'État, il a 14% du capital. Il aurait dû intervenir un petit peu plus dans ce conflit. Est-ce qu'il devrait se désengager aussi? Qu'est-ce que l'État fait dans le capital d'Air France?
C'est une bonne question. Ouais. Qu'est-ce que fait l'État dans le capital de certaines entreprises françaises?
Alors, vous pensez à quoi?
Je pense que tout ce qui est dans le domaine régalien, je pense qu'il faut rester. Je pense que l'État a un rôle. Lorsque c'est régalien, la défense nationale, etc. Et puis après, en effet, dans le Renault, on peut se poser la question de la présence de l'État et de sa gouvernance et de son implication, d'ailleurs. Dans un marché, dans une entreprise qui est soumise à une concurrence mondiale et qui n'est pas dans le champ du régalien. On peut se poser la question.
Et justement, Pierre Gattaz, comment est-ce qu'aujourd'hui l'État peut protéger nos fleurons industriels même, hein. C'est une question qui est abordée au cœur de la loi Pacte qui va être présentée dans la deuxième quinzaine de juin. Une loi qui prévoit peut-être ou pas d'ailleurs des privatisations d'entreprises stratégiques comme ADP, c'est pour ça qu'il y a une réflexion d'ailleurs sur le foncier d'ADP aujourd'hui.
Reste à savoir si c'est vraiment stratégique.
Et un autre volet qui concerne aussi l'extension des secteurs dits stratégiques. Est-ce qu'il faut étendre ces secteurs? Quelle liste faut-il inclure dedans?
La première chose à faire, c'est de faire un environnement social, fiscal, réglementaire, législatif, qui permette à nos fleurons de rester en France, à nos start-up de se développer en France, d'embaucher en France, d'investir. Donc la première chose qu'il faut faire pour l'État, c'est de faire un environnement, et je crois qu'Emmanuel Macron et son équipe ont commencé à le faire, et bravo, tant mieux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois qu'en effet, sur des entreprises très stratégiques, et je crois que le ministre de Montebourg avait émis un certain nombre de listes d'entreprises, je n'avais pas trouvé ça stupide du tout. Je pense qu'il faut, comme les Américains le font, comme les Allemands le font, se protéger un peu sur des fleurons stratégiques français.
Mais par exemple, il y a un débat en ce moment
concernant le nucléaire, concernant des choses qui sont essentielles pour, je dirais, les fonctions
régaliennes.
Le big data et l'intelligence artificielle. Ensuite, est-ce que c'est stratégique ou pas à vos yeux, sachant que c'est quand même transversal?
Oui. Ensuite, vous avez l'échelon français et l'échelon européen. Il y a des combats qu'on ne pourra plus de moins en moins. Faire seul en France. C'est pour ça que l'Europe est si importante. Et c'est pour ça que l'Europe doit, face aux sanctions américaines, de l'extraterritorialité, de définir une stratégie numérique, une stratégie pour l'industrie, une stratégie européenne de l'apprentissage, une stratégie pour l'environnement, pour le climat, pour l'énergie. Je crois que tous ces sujets-là, qui sont traités aujourd'hui par le géant chinois d'une part, par le géant américain d'autre part, nous ne pouvons plus, nous, Français, tout seuls, avec 65 millions de personnes, faire face à ces géants, d'autant plus qu'il y a l'Inde qui arrive, et qu'il y a l'Afrique peut-être dans 10 ou 20 ou 30 ans qui arrivera.
Est-ce qu'il faut l'intégrer pour autant dans les domaines prioritaires de souveraineté? L'autre jour, j'étais avec Jean-David Chamboredon à la tête du fonds Isaïe, qui disait non, il faut pas, sinon c'est trop restrictif, ça met trop de bâtons dans les roues des entrepreneurs.
Il faut quand même avoir une stratégie européenne dans le numérique. Les GAFA, l'Amérique, a une stratégie d'innovation très libérale sur le numérique, qui a permis de faire émerger des GAFA avec la prédominance actuelle que vous connaissez. Et les Chinois ont fait l'inverse. C'est une stratégie d'État, très, très éclairée, on va dire, mais d'État, qui a fait émerger ce qu'on appelle les BATS. Eh bien, nous, l'Europe, nous avons pas de stratégie, je suis désolé. Alors, on protège, on essaye de faire des choses intéressantes, RGPD, etc. Je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et avoir une vision, à mon avis.
RGPD, c'est plus pour protéger les
consommateurs. Mais, si vous voulez, ça fait partie, et on peut critiquer aussi en disant, mais faut pas trop.
On reprend notre souveraineté avec le RGPD.
Moi, je pense qu'il manque cruellement, pour l'Europe, et pour la France aussi, une vision. Au MEDEF, nous avons défini une vision 2020 pour le pays, pour la France. Et pour l'Europe, à mon avis, il faut une vision 2030. Face à ces grandes mutations, l'intelligence artificielle, le numérique, et toutes ces implications, le climat, l'environnement, l'Afrique qui va passer de 1 milliard d'individus à 2 milliards d'individus. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les aider, pour transformer ces risques possibles, politiques ou démographiques, en opportunités de développement, d'entreprise, de croissance, d'emploi, d'investissement? Parce que tous ces risques que je liste là peuvent se transformer en opportunités. Pas complètement tous, mais... Et c'est là, je crois, où une vision, un cap européen, dans tous ces segments-là, me paraît absolument nécessaire. Et aujourd'hui, on n'a pas cette vision.
Juste un mot, Mathieu, vous étiez à l'Élysée ce matin. Qu'est-ce qu'on vous a dit, justement, sur la présence de l'État dans le capital de boîtes comme Air France, comme ADP, comme FDJ aussi?
En fait, à l'Élysée, ils sont en train de raisonner vraiment boîte par boîte. Par exemple...
Air France, il n'y a pas de projet à ce stade de baisser la participation de l'État.
Aujourd'hui, ils n'ont aucun projet de baisser la participation de l'État chez Air France. En revanche...
Mais ça ne signifie pas que son niveau actuel est éternel.
Mais en revanche, pour Aéroports de Paris, ainsi que pour la Française des Jeux, ce qu'ils posent comme préalable, c'est de mettre en place une régulation sur ces secteurs. C'est-à-dire que, un, ils régulent, deux, ils privatisent. Mais ils veulent surtout pas tomber dans le piège inverse, à savoir privatiser une boîte sans aucune régulation sur une boîte avec derrière toute la thématique autour de l'addiction et une autre où on est quand même sur un actif stratégique qui est un aéroport dans une mégalopole.
Tout juste. Stanislas Guérini, La République en marche.
Oui, moi je veux un État stratège et un État régulateur. Je crois que ce sont les deux fonctions. Pour être un État stratège, on n'est pas obligé de gérer des duty-free. On peut être un État stratège en accompagnant les entreprises françaises. Et l'objet, si l'État se désengage effectivement d'un certain nombre d'entreprises, c'est de dégager des fonds, de les mettre dans un fonds pour l'investissement de rupture, et que l'État, la puissance publique, avec le produit de ce fonds, investisse là où les acteurs privés ne puissent pas aller seuls, pour investir sur des sujets qui vont nous permettre d'avoir des gains de compétitivité pour les 25 années à venir. Quand on investira dans les véhicules autonomes, avoir le véhicule de cinquième génération, celui qui sera vraiment autonome pour conduire tout seul, investir dans le stockage de l'énergie. Là, on a effectivement parfois un déficit d'investissement des acteurs privés parce que les tickets sont trop gros et les risques sont trop importants. Là, on a un État stratège. Et ensuite, il nous faut un État régulateur. Et on n'a pas besoin d'être nécessairement actionnaire pour être régulateur. Vous avez cité la Française des Jeux. Il n'y a aucune volonté du gouvernement de remettre en pause le monopole des jeux, par exemple. Dans les télécoms, on peut être un très bon régulateur et ne pas être actionnaire.
Juste une précision pour tirer le fil que tend Stanislas Guérini, mais justement l'objectif de l'État aujourd'hui est de vendre l'ensemble de ses participations au sein de Aéroports de Paris pour récupérer 9 milliards d'euros qui réinjecterait dans un fonds d'innovation de rupture avec ces objectifs que vous énonciez.
Pierre Gattaz, président du MEDEF.
Oui, je crois que je partage assez ce que dit Stéphane Guérini.
Stanislas, qui consistait
à dire qu'il faut investir plus dans des innovations de rupture en sachant qu'il y aura des choses qui marcheront et d'autres qui marcheront pas. Donc il y a un risque, et ce risque-là, parfois, ne peut pas être porté par l'entreprise privée, en tout cas pour la France.
Mais là où vous êtes l'État doit générer l'investissement, et ensuite il doit avoir un effet de levier. Absolument. Avec des investisseurs privés. Et donc, quand on mettra 300 millions d'euros par an, ce n'est pas rien, ça sera dans l'innovation de rupture, l'innovation fondamentale, pour mettre le pied à l'étrier à des investisseurs
privés. Où les entreprises privées doivent prendre le relais très très vite,
exactement,
très rapidement.
Je partage.
Soit à travers des grands groupes, des ETI ou des start-up, de telle façon à avoir cette agilité, cette mobilité, pour faire de passer d'une innovation à un projet, un produit, un système ou à du service. Et je crois que c'est là où il faut que l'État sache très vite se retirer
de là où
pour
n'est pas
pouvoir se dire on a aidé, je dirais les entreprises à se propulser vers l'avant, vers le futur.
C'est un fonds d'amorçage à l'innovation de rupture.
Alors dans l'actualité de ce mardi, il y a la croissance 2017 qui a été relevée de 0,3 point à 2,2%. Bon, On fait quoi de cette croissance, Pierre Gattaz?
Écoutez, la croissance, c'est la clé de l'emploi. Il faut toujours le dire, c'est vrai pour les entreprises. Toutes les entreprises, je ne connais pas aucune entreprise qui crée du chômage, de l'emploi sans emploi. Croissance et un pays. Et pour nous, en France, on sait que c'est autour de 1,5% de croissance par an. En dessous, c'est très compliqué. Donc, réjouissons-nous d'avoir cette croissance. Il faut la garder maintenant. Et nous sommes en train de travailler au MEDEF sur un thème autour des 7 défis de la croissance, qui a fait l'objet d'un premier document, France 2020. Nous sommes en train de chiffrer ces 7 défis de la croissance en termes de contribution par an sur le PIB français. Et nous sommes en train, nous donnerons ces informations le 6 juin publiquement, mais nous pensons qu'il est possible de faire entre 2 et 3% de PIB par an pour la France, c'est-à-dire être au-dessus de la moyenne européenne durablement. C'est quoi? C'est la mondialisation, c'est les filières d'avenir, c'est toutes les technologies numériques, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'Europe, c'est tout ce qui est climat, environnement, énergie, c'est tout ce qui est épanouissement de nos hommes des hommes et des femmes. Mieux vivre, mieux travailler, mieux se loger, mieux sécuriser, etc., etc. C'est la formation. Tous ces défis sont des opportunités de croissance qui arrivent par l'entreprise.
Oui, mais...
Et donc, il faut faire les réformes nécessaires qui ont commencé à être faites pour se dire, il faut pas subir et attendre stupidement la croissance comme j'entends beaucoup de commentateurs ou d'économistes ou de politiques. Il faut la construire, aller la chercher. Et donc, je pense que cette croissance-là de 2,2% revue en hausse de 2017, il faut impérativement faire. J'espère qu'on arrivera à 2% et tenir les 2% par an.
Et ça se traduit par combien d'emplois? Vous projetez encore sur million d'emplois supplémentaires après votre premier appel il y a 3 ans?
Mais écoutez, vous savez, absolument, non seulement nous sommes en train de gagner ce pari. Pourquoi? Parce que nous avons créé 650 000 emplois en 3 ans, 2015, 2016, 2017. Nous sommes sur un train d'aujourd'hui, une tendance, de l'ordre de 250 000 emplois à 300 000 emplois. Donc j'espère qu'en 2018, si... les réformes continuent de se faire, la confiance reste élevée parmi les acteurs économiques que nous sommes, eh bien je pense qu'on pourra franchir la barre du million d'emplois peut-être à la fin de cette année, en tout cas avant la fin de l'année prochaine 2019, avant 5 ans.
Avec des PME et des ETI quand même qui ont du mal à recruter, vous savez.
Vous avez parfaitement raison. Quel est le problème majeur que nous avons aujourd'hui dans notre entreprise? C'est plus la confiance. Parce que la confiance est revenue. Des bonnes réformes ont été mises en œuvre. Elles sont pas toutes parfaites. On reviendra peut-être là-dessus. Mais ça va vraiment dans le bon sens. Et je crois que le problème principal que nous avons chez les chefs d'entreprise, c'est de trouver des compétences, de trouver des talents pour nous aider. Et c'est dramatique parce que, en effet, pour baisser le chômage, je vois déjà des gens qui me disent, je vais pas cet investissement, je ne prends pas ce projet, je ne prends pas ces commandes parce que je ne trouve pas des équipes. Donc vous voyez que ce sujet-là est extrêmement important. C'est pour ça que la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la formation professionnelle est si importante pour débloquer ce verrou-là et mettre l'offre en face de la demande. C'est un vrai sujet français. On ne le voit pas dans d'autres pays, pas trop. Et c'est un vrai sujet pour faire que le chômage baisse au plein emploi d'ici 5, 10, 15 ans, je ne sais pas à quel horizon, mais il faudra régler ce problème-là.
Bon, vous êtes optimiste, en tout cas. Philippe Vivien, à la tête d'Alixio, la croissance relevée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette croissance? Comment est-ce qu'on partage la valeur? Comment l'entreprise doit-elle s'inscrire, justement, dans cette croissance retrouvée?
Je crois que c'est le point important aujourd'hui pour les entreprises, ça a été dit. Cette croissance, on va la retrouver dans l'emploi. On va le retrouver dans le recrutement. On va le retrouver dans tout ce qui va être les formations d'avenir. Je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à rebooster la formation dans ce pays. C'est vraiment un sujet. On connaît tous les problèmes de flux, les problèmes de milliards d'euros. C'est bien. Mais au-delà de ces problèmes de milliards d'euros, c'est comment on s'assure que les salariés et ceux qui vont devenir salariés sont formés sur les vrais sujets pour aller de l'avant. Puis après, il y a tout l'enjeu dont il ne faut pas se cacher, qui est l'enjeu salarial, qui est l'enjeu de l'intéressement, qui est l'enjeu du salaire, qui est l'enjeu des primes. Et là, il va falloir, je crois aussi, qu'on se repose tous la question aujourd'hui d'un nouveau partage sur cette partie du coût salarial. Des efforts sont faits pour réduire les coûts salariaux. Une partie passe évidemment dans l'emploi, une autre partie devra aussi repasser dans les négociations salariales.
Et alors justement, Pierre Gattaz, vous avez lu ce rapport de l'ONG Oxfam, dirigé en France par Madame Duflo, qui affirme que la France est le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires. Que dit Oxfam? Les groupes du CAC 40 ont redistribué à leurs actionnaires les 2/3 de leurs bénéfices entre 2009 et 2016, deux fois plus que dans les années 2000. Vrai, faux, selon vous?
Écoutez, moi, j'ai lu rapidement ce rapport qui m'a paru être très politique et très biaisé sur le plan de la méthode, sur le plan des chiffres. Il compare des carottes avec des choux. Et il constate en fait qu'il y a trop de dividendes en France sur le CAC 40 et que ça compresse à la fois les salaires et les investissements. Or, là, c'est une erreur magistrale. La masse salariale est payée dans la valeur ajoutée. Elle est payée avant le résultat net, ainsi que les investissements par soit les charges directes, soit par l'amortissement. Alors c'est un peu technique. Et donc en fait, quand vous faites un résultat net, ensuite vous décidez de le répartir en dividendes et de le répartir aussi en intéressement, participation, etc. Et de dire, tiens, j'ai du résultat, je peux le distribuer aux actionnaires qui prennent un risque, qui sont en variable totale à 100% et en investissement. Alors ce que je pense, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe Vivien tout à l'heure, c'est qu'il faut maintenant se mettre dans une position où il faut partager plus la richesse créée. C'est fondamental. Moi-même, à Radial, je distribue entre 2 et 3 mois, entre participation, intéressement, prime, bonus, de salaire par an à mes salariés, dans les bonnes années. Je crois que c'est un bon niveau. Il faut continuer et c'est important parce qu'en effet la masse salariale a tendance à augmenter très vite et nous savons que il faut contenir cette masse salariale mais par contre rétribuer nos collaborateurs, nos compagnons, je dirais par le partage de la croissance. Alors ce rapport Oxfam, on dirait, pour revenir, il y a beaucoup de choses tout à fait inexactes. Et je crois que les dividendes ne compressent pas. Alors après, on peut dire, oui, ils distribuent 60%, le CAC 40 distribue 60% des dividendes. Dans les entreprises que je connais, les TPE, les PME, ETI, c'est beaucoup plus bas que ça. Mais c'est le business model, on va dire, d'entreprises internationales, mondialisées, qui ont besoin de fonds, qui ont besoin d'actionnariat, anglo-saxons, etc. Et ces actionnaires du monde entier demandent, je dirais, une rétribution de leurs risques.
Alors, Mathieu Jolivet et Stanislas Guérini.
Juste parce que j'ai évoqué très rapidement ce sujet de la croissance ce matin à l'Élysée, et on nous dit deux choses là-bas à l'Élysée. Un, on ne se réjouit surtout pas parce que la croissance potentielle, elle est encore trop faiblarde. Et deuxièmement, surtout, aucune redistribution de cette croissance. Et là-bas, c'est un peu le nouveau mantra, et vous verrez que ça va arriver presque en tête de gondole du futur budget 2019 de la France, c'est la valeur travail. C'est-à-dire que c'est le travail avant le pouvoir d'achat. Et donc ça passera derrière, pas des futures mesures emploi appuyées sur ce niveau de croissance, des mesures de type heures sup désocialisées qui risquent de figurer là plutôt que prévu peut-être dès le budget 2019.
Alors Stanislas Guérini, député de la majorité.
Bien, dans cette majorité, vous ne trouverez personne pour faire des larmes de crocodile quand les entreprises de notre pays marchent bien, gagnent des marchés internationaux, croissent, créent de l'emploi. On a un niveau de création record depuis 10 ans d'emplois marchands, 260 000 emplois qui ont été créés en 2017. Ce sont des bonnes nouvelles. Mais pour autant, nous avons des sujets de partage de la valeur dans l'entreprise. Je partage ce que vous disiez, Pierre Gattaz. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette loi PACTE, ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, on veut permettre aux entreprises françaises d'aller plus loin en matière de partage de valeur. C'est pour ça qu'on veut favoriser la participation et l'intéressement. En résolvant ce bug, si je puis me permettre, de la participation et de l'intéressement, c'est que ce sont des dispositifs qui sont très généralisés dans les grands groupes, plus de 80%, mais qui en revanche, alors que ce sont des bons outils pour associer les salariés à la stratégie de l'entreprise, au partage de la valeur, qui sont déployés à moins de 20% dans les entreprises de moins de 50 salariés dans ce pays. C'est la raison pour laquelle, c'était une annonce du président de la République, nous avons décidé de supprimer purement et simplement le forfait social, c'est-à-dire que la taxe que payent les entreprises au moment où elles versent de la participation et de l'intéressement, pour résoudre ce problème-là et faire en sorte que quand il y a de la croissance, on partage les frais de la croissance. C'est un sujet, y compris de compétitivité pour notre économie.
Cette loi PACTE, Pierre Gattaz, avec toute une panoplie de mesures qui seront révélantes. On en connaît déjà quand même pas mal. Mi-juin, normalement, il est question des seuils, de l'intéressement, en effet, comme le vient de le dire Stanislas Guérini, de l'innovation, de la transmission, de l'export. Est-ce que ce sera la recette magique? Ça vous plaît? Il manque des choses dedans? Peut-être qu'on reparlera des impôts de production avec Mathieu, justement, qui a planché là-dessus sur BFM Business.
Il y a des bonnes choses. Et je crois que le fait de baisser le forfait social ou de le supprimer complètement pour les sociétés en dessous de 250 personnes, c'est déjà un très bon geste. On regrette, par contre, que ce forfait social ne baisse pas pour toutes les entreprises, parce qu'il est très élevé, c'est 20%. Je crois qu'il y a quelques années, il était à 3%, il est monté à 8%, puis...
Il est 2, monté, 4, 8,
voilà.
20.
Voilà.
Mais nous, ce que nous voulons éviter, une réponse très rapide là-dessus, oui, ce sont les effets d'aubaine. On veut par la fiscalité, avoir une fiscalité comportementale qui permette de changer les comportements dans l'entreprise. Et là où il y a besoin de changer, c'est les entreprises de moins de 50 pour la participation, moins de 250 pour l'intéressement.
Bonne nouvelle, et je suppose cette première mesure est tout à fait intéressante, en effet, par rapport à cette population de TPE, de PME, et bravo. Je crois que l'histoire de lisser les seuils et de supprimer celui de 20 ou de lisser et de permettre une franchise en durée de 5 ans, puisque lorsqu'on franchit un seuil de 49 à 50, on a 2,5% de masse salariale en plus, de contraintes fiscales, sociales, administratives.
Donc il y aura complexe. Un moratoire. Voilà.
Donc il y aura une sorte de moratoire, et je pense que c'est une bonne idée aussi. Donc il y a des bonnes choses dans ce document, bien évidemment, et je pense qu'il faut lever les verrous, lever les obstacles, il faut être à l'écoute des TPE-PME, ce que je crois que vous avez fait, parce que c'est elles qui doivent grandir en France. Nous avons un déficit terrible de PME, de grandes PME, contrairement aux Allemands, ce qu'on appelle les ETI. Nous sommes 4500 ETI en France, les Allemands en ont 12 000. Elles sont exportatrices. Et ça, c'est le handicap.
Le défi ETI tous les week-ends sur BFM Business avec les meilleurs ETI, les plus grandes pépites. Ah là, je fais mon auto-promo. Mathieu Jolivet, sur les impôts de production.
Cette loi Pacte, elle a été ficelée pour les entreprises. Or, il y a un point qui n'y figure pas et qui est un des combats que vous menez à la tête du BDF, qui est la baisse, voire la suppression des impôts de production. Et j'ai aussi abordé ce sujet ce matin à l'Élysée. Et là, on nous dit que cette baisse ou suppression des impôts de production, ce n'est clairement pas leur priorité.
C'est quoi? C'est 60 milliards de recettes fiscales?
72 milliards.
72
à peu
milliards.
Près. Voilà.
Oui,
donc, quelle est votre réaction?
Mais notre réaction, c'est que vous avez parfaitement raison, ça manque cruellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 70 milliards de plus d'impôts par rapport à des entreprises allemandes qui pèsent sur l'économie française. Donc il est impératif de régler ce problème-là. Alors un premier moyen, ce qu'on avait expliqué, ce qu'on a suggéré, c'est de concentrer tous ces impôts de production en une sorte d'IS territorial, en bas du compte d'exploitation. Aujourd'hui, vous avez des tas d'impôts qui viennent frapper le chiffre d'affaires, la C3S, la CVAE, la CFE, le versement transport, qui pollue, qui n'est pas sous contrôle, qui n'est pas mesuré. Et donc il faut le mesurer. Les Suisses et les Allemands ont deux impôts sur les sociétés, l'un national, l'autre de l'under,
local,
en bas. Et je crois que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut baisser les dépenses publiques. Parce que tant qu'on ne baissera pas les dépenses publiques, eh bien, vous aurez une fiscalité qui sera une sorte de mistigrie, qu'on se passera, une sorte de jeu de bonneteau, entre les ménages, entre les retraités, les entreprises, etc. On se passera le fardeau. Eh bien, il faut arrêter de se passer le fardeau. Et donc, pour arrêter de se passer le fardeau, il faut se dire que nous sommes à 57% de PIB en dépenses publiques aujourd'hui. La moyenne européenne est à 49%. Les Allemands sont à 44%. Nous avons donc, quelque part, 12 à 13 points de trop. Eh bien, il faut être courageux. Alors nous ne pensons pas qu'il faut passer un grand coup de rabot sur les administrations d'un seul coup, 10% de moins ou 5% de moins. Nous pensons qu'il faut le faire avec chacun des fonctionnaires. Chacun de nos fonctionnaires ont des idées sur leur productivité, sur leur épanouissement, sur leur motivation. Et aujourd'hui, comme il y a peu ou pas de RH, peu ou pas de management, je suis désolé, dans certains endroits il y en a, dans d'autres il n'y en a pas. La Poste est un exemple vertueux sur le sujet-là. Ils l'ont fait. Ils ont fait de la qualité totale, avec des très très bons résultats. Eh ben, faisons ce que fait, dans toute l'administration, les administrations françaises, ce qu'a fait la Poste, c'est-à-dire en fait de la productivité, et avec les fonctionnaires eux-mêmes, qui ont des tas d'idées.
Stanislas Guérini, un mot, et puis on revient dans un instant pour parler du bilan de Pierre Gattaz.
Je pense qu'on pourra revenir sur la réforme de la fonction publique, peut-être après la pub, si, parce que c'est un grand sujet. Deux mots pour rassurer Pierre Gattaz. Un, oui, nous allons baisser la fonction publique, baisser la dépense publique dans notre pays. C'est un engagement. Nous allons baisser de 3 points de PIB. Il faut le faire. Et deux, je crois que dans une première année de mandat, pour les entreprises de ce pays, c'est un bilan qui est sans précédent. Droit à l'erreur. Budget avec la baisse de l'impôt sur les sociétés et d'autres mesures. Réforme du marché du travail, réforme de la formation professionnelle, réforme de l'apprentissage, Pacte qui arrive, nous sommes derrière les entreprises de ce pays pour qu'elles réussissent et qu'elles créent de l'emploi.
Eh ben, c'est pour ça que je disais que l'élection du président du MEDEF a lieu dans un contexte un peu particulier. Un an de Macron qui a quand même répondu très favorablement à toutes vos revendications. Donc, on revient dans un instant, Pierre Gattaz, à tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, les décodeurs de l'écho avec un bilan à faire. Donc, 5 ans de présidence de Pierre Gattaz à la tête du MEDEF. Bon, son successeur sera connu donc le 3 juillet à l'issue du scrutin, donc des 570 membres de l'Assemblée Générale. On y reviendra, bien entendu. Ce livre bleu de 46 pages regarde sur 5 années de combat, 2013-2018. Pierre Gattaz, hein, ce dont vous êtes le plus fier, ce que vous avez raté, ce que vous avez fait évoluer, l'image de l'entreprise, comment a-t-elle bougé grâce à vous, Pierre Gattaz.
Et si vous voulez, qu'est-ce que vous dites? Ça a été un mandat difficile parce que nous avons en face de nous une équipe gouvernementale autour de François Hollande qui est arrivée au pouvoir sans programme économique. Et ça, c'est quand même très compliqué. Donc, c'était quand même de l'improvisation. Alors, on a réussi quand même à obtenir le pacte de responsabilité.
C'est ça, parce que c'était peut-être de l'improvisation au début, mais quand même, il a pris des mesures qui étaient assez... Mais bon, entreprise quand même.
Enfin, à part il y a eu le pacte de responsabilité d'une part qui a permis de faire une baisse théorique de 40 milliards de charges.
Il y a une sorte de conversion de François Hollande. Vous êtes d'accord?
C'est pas une conversion, c'est que c'est le pragmatisme. On a beaucoup travaillé avec Emmanuel Macron sur ce sujet-là, mais qui fait qu'on allait dans le mur à très grande vitesse. Si vous voulez, les marges d'entreprise à l'époque étaient de 28%, alors que les marges allemandes étaient à 41%. Et si vous voulez, on allait tous dans le mur, mais de façon extrêmement rapidement. Donc je crois qu'il y a eu un sursaut de pragmatisme qui s'est opéré fin 2013, et tant mieux, qui nous a permis d'avoir le CICE. Et je sais qu'il y a des témoignages de chez entreprises qui me disent « Ouf, grâce au CICE, au pacte, j'ai réussi à sauver mon entreprise et à me redévelopper ». Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui a été quand même très intéressant, je pense, c'est tout le combat des idées sur la complexité du marché du travail. Et je crois que ça, c'est un combat qu'on a mené. On a beaucoup mené de combats pendant ces 5 ans contre les excès de fiscalité, les nouveaux impôts, les nouvelles taxes, les nouvelles obligations. Ça a été un combat incessant et je l'écris un peu dans ce livre, qui n'est pas public. C'est un livre mais que vous avez et qu'on peut se procurer au MEDEF.
C'est simple à se procurer.
Mais si vous voulez, en fait, je crois qu'on a réussi à force de beaucoup d'explications, de benchmarking, d'expliquer que ce code du travail était un frein à l'embauche et que nous avions tous peur d'embaucher en France. Ce qui est dramatique, quand un patron a peur d'embaucher en France, et quand des investisseurs internationaux nous le disent, donc la loi El Khomri et Manuel Valls, qui est arrivé en deuxième partie de mandat de François Hollande, avait ce pragmatisme aussi, a compris un certain nombre de messages. Je me souviens qu'à Davos, nous étions ensemble, nous avons réuni une quinzaine de grands chefs d'entreprise internationaux. Tous ont dit, mais vous êtes un pays formidable, d'innovation, de start-up. Mais votre code du travail, monsieur Valls, votre code du travail est une hérésie.
Mais Manuel Valls, il a été, il a agi parce que Pierre Gattaz l'a convaincu.
Et je crois que le rôle du MEDEF, c'est beaucoup de lobbying, c'est de la pédagogie, c'est de défendre les entreprises, défendre les TPE, les PME jusqu'aux grands groupes. C'est de faire en sorte, en fait, si vous voulez, qu'on retrouve le plein emploi, la croissance, et que nos compatriotes aient du travail et du bon travail. Je crois que c'est ça ma vocation et ma mission pendant ces 5 ans. Pour ça, le rôle de l'entreprise est fondamental.
Et qu'est-ce que vous avez raté?
Eh bien, qu'est-ce que j'ai raté, si vous voulez? Peut-être que comme nous étions dans le combat permanent, dans la tranchée, comme je dis souvent, avec l'armée MEDEF, les fédérations, peut-être que je n'ai pas modifié la gouvernance du MEDEF. Je dirais les fédérations pourraient être aussi transformées en institutions beaucoup plus économiques, beaucoup plus exportatrices, beaucoup plus liées à l'innovation, beaucoup plus peut-être liées au management. Or aujourd'hui, si vous voulez, moi, ce qui m'a perturbé un peu, c'est que au MEDEF, nous faisons 80 à 90% de social. Et donc cette masse de social entre les conventions collectives gérées par les fédérations, le code du travail et tout ce que vous connaissez, ça nous occupe un temps fou. Or, ce que je dis souvent, mais il faut faire de l'humain, il faut faire du management.
Justement.
Et c'est ça le grand problème, la grande difficulté française, c'est quand on dit, mais il faut arrêter de faire du social, on vous dit, mais vous êtes asocial, mais pas du tout. Moi, je fais de l'humain, je veux que mes collaborateurs soient heureux, soient épanouis, soient motivés. Tous les chefs d'entreprise pensent à ça, d'ailleurs. Et donc, je pense que, et là, il faut continuer de simplifier, si vous voulez, ces codes, et notamment ce code du travail qui a commencé à être simplifié. Mais je pense que dans un monde qui bouge très vite, d'agilité, il faut développer la flexi-sécurité, un peu le modèle danois, permettre aux entreprises de s'adapter tout en sécurisant les parcours de nos collaborateurs.
Alors justement, la suite, l'avenir, il y aura, on parlera de tous ceux qui veulent prendre votre place, ils sont assez nombreux, 7, 9, je ne sais plus très bien ce qu'il y a, un système
d'alliance. Ils sont 7 maintenant.
Ouais, 7, voilà, 7, puisqu'il y a eu Pierre
Brasseux, il y en a deux qui ont rallié.
Qui ont officialisé leur alliance avec
autour de Patrick Martin,
tout juste, on saura ça évidemment le 3 juillet. Stanislas Guérini, avec une centaine de parlementaires, La République En Marche, puisque vous êtes vous-même élu de Paris. Vous avez signé une tribune, l'heure de vérité a sonné pour le patronat. Ce que vous demandez au MEDEF, êtes-vous prêt à rompre avec des positions défensives, héritées d'un passé où l'entreprise était l'adversaire de la politique, mais que rien aujourd'hui ne justifie plus? Qu'est-ce que vous attendez d'une organisation patronale comme le MEDEF, Stanislas Guérini? Vous avez en face de vous Pierre Gattaz.
Nous aider à réconcilier les Français avec l'entreprise. Vous faisiez votre bilan à l'instant. On ne peut pas vous nier... Vous êtes le défenseur de la réussite économique des entreprises. Mais nous avons encore un grand enjeu qui est devant nous, et qui est un enjeu pour le patronat, qui est celui de la réconciliation des Français avec l'entreprise. On n'arrivera pas, dans notre projet de réussite économique du pays si on ne relève pas ce défi. Et nous avons besoin, pour cela, d'un patronat progressiste, d'un patronat qui embrasse l'évolution des entreprises françaises.
Vous pensez que le patronat donne une mauvaise image des entreprises? Vous pensez que la politique d'Emmanuel Macron, par exemple, elle peut être mal interprétée, mal reçue, parce que l'image des entreprises n'est pas la bonne?
Vous avez vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans mon discours sur le fait que nous sommes défenseurs de l'entreprise. J'ai mentionné quelques réformes pour le faire. Mais nous sommes des alliés exigeants. Nous voulons que l'entreprise continue son évolution. Et ma conviction, je vais vous le donner personnel, c'est que l'entreprise a beaucoup plus évolué que ce que les dirigeants politiques ont bien longtemps pensé. Les débats que je vois, moi, sur les bancs de l'Assemblée nationale me semblent, à bien des égards, des débats datés. Eh bien, avec la loi Pacte, nous offrons aux entreprises une opportunité absolue d'en faire la démonstration. Et je regrette, et je le dis très directement à Pierre Gattaz, que vous ne saisissiez pas cette opportunité qui vous est donnée de dire, eh bien oui, nous allons changer, nous allons le démontrer dans la loi, dans le code civil, dans le code du commerce et dans les codes de régulation des entreprises.
Alors essayez de répondre à ça, un peu à sa déception.
Très, très simple, très simplement. Pierre Gattaz. Moi je suis pour une économie d'excellence économique, pour un modèle français d'excellence économique profondément humain, profondément respectueux de l'environnement. Ça c'est clair, c'est une trilogie impeccable. Par contre, ce que je dis, c'est que pour faire aimer l'entreprise aux Français, il faut pas passer par le code, la modification du code. Nous sommes d'accord sur tout, la philosophie, sur le partage de la richesse, sur l'épanouissement de nos hommes et de nos femmes, sur leur motivation, bien évidemment. D'ailleurs, c'est une condition sine qua non pour durer. Pour durer, il faut des hommes et des femmes qui soient derrière le chef d'entreprise, dans son combat, dans son projet, avec lui. Et je pense que c'est fondamental. Deuxièmement, vous avez un problème terrible en France, c'est que l'économie n'est pas enseignée en France. L'entreprise n'est encore moins enseignée. Donc là, il va falloir qu'on commence à travailler sur ce sujet-là.
Mais vous avez sur les bancs de l'Assemblée nationale des parlementaires qui connaissent l'entreprise, qui ont créé les entreprises.
Là où je suis surpris.
Et donc, nous allons changer ça aussi.
Là où je suis surpris quand même, si vous voulez, c'est que on est en désaccord sur un seul point, parce que le reste c'est très bien. Sur un seul point, c'est que vous voulez encore modifier le code civil pour intégrer une obligation.
Ah.
Mais c'est ça le problème que
on
nous
parle de l'objet social.
Mais oui, exactement. Pourquoi nous sommes pas d'accord? Parce que on a introduit le principe de précaution dans la Constitution il y a 20 ans. Vous voyez, en disant non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va être immune. Eh bien, le principe de précaution nous pollue la vie de la nation, pollue la vie de certaines entreprises. Et on dit, mais non, mais c'est une petite phrase, rien du tout. L'article 1733 du Code civil qu'il faut modifier en intégrant l'intérêt social. Moi, je dis, ne faisons pas ce que on fait depuis 50 ans en France, c'est-à-dire augmenter de nouveau, complexifier la loi. Parce qu'il y a un risque juridique derrière tout ça.
Vous n'êtes pas tout seul, parce que vos challengers, les 7, là, refusent aussi la redéfinition de l'objet
social. Non, ce n'est pas vrai pour tous les candidats. Hein. Il y a une candidate qui s'est prononcée.
Ce que je dis juste, c'est le seul petit désaccord que nous avons sur ce sujet, c'est ça.
Mais vous faites une erreur historique sur ce sujet.
Non, je ne crois pas.
Historique au sens où vous allez contre le sens de l'histoire des entreprises. Et je vais vous en donner pour deux raisons.
Alors, oui.
Une qui est internationale. Nos voisins, notamment nos voisins anglais, font ce type de modification. Et nous avons une bataille de soft power à gagner dans le monde pour dire investissez dans nos entreprises parce qu'elles sont plus responsables, parce qu'elles ont une capacité à prendre en compte le temps long, donc à faire de l'innovation. Première raison. Et deuxième raison historique, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une évolution du capitalisme international avec ce qu'on appelle peut-être parfois trop rapidement les fonds activistes. Ils mènent des campagnes avec des montants records. Eh bien, je ne voudrais pas que à périmètre constant législatif, en gardant le code tel qu'il est, c'est-à-dire extraordinairement restrictif, qui cantonne la société à l'intérêt des associés, on puisse demain attaquer une entreprise parce que elle a décidé de planter des arbres pour compenser ses émissions.
Alors Mathieu,
ce n'est pas moi, ce sont les grands patrons qui le disent.
Le temps passe très vite.
Mathieu,
Pierre Gattaz, deux questions très rapides. Est-ce que c'est pas compliqué d'exister aujourd'hui pour le MEDEF et pour votre successeur quand on a un président jeune et pro-business et avec des députés jeunes et anciens chefs d'entreprise sur les bancs de l'Assemblée? Deuxième question, quand le candidat Alexandre Sobo dit le MEDEF mourra s'il ne se transforme pas, a-t-il raison?
Mais si vous voulez, bien sûr, on est tous mortels. Et bien sûr que, si vous voulez, le MEDEF, c'est une institution, c'est la première force économique du pays, ou représentative des forces économiques du pays. On est obsédé par ces sujets-là, par ces sujets de la réforme du capitalisme. Moi-même, à
Radio... Eh bien, faites-le.
Je suis sorti de bourse parce que j'avais des activistes financiers qui me disaient, vous avez trop de personnes en France, il faut fermer des usines. J'ai dit, je sors de bourse parce que je ne veux pas être soumis à ça. Par contre, vous risquez, avec votre code civil, la modification de code civil, de transformer les activistes financiers en activistes environnementaux.
Mais les entreprises britanniques ont-elles été plus attaquées?
transposer
après
tout,
2006.
Mais transposer tout, transposer le code du travail britannique, que parce qu'on me cite souvent les Anglais et les Américains là-dessus. Je dis transposer tout.
En 2019, je prends le code du travail britannique. Dans un pays où il y aura zéro charge sur le SMIC. Vous le prenez ou vous le prenez pas?
Bien sûr.
Eh bien, nous allons dans le bon sens pour aider les entreprises
françaises. Mais pourquoi voulez-vous modifier le code civil, la loi que personne ne lit, que personne ne regarde, à part en effet des activistes qui seront des activistes environnementaux ou sociaux? Et où on risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Moi, je préfère mille fois qu'on débatte, qu'on discute de tout ça, et c'est très bien qu'on le fasse, qu'on incite, qu'on fasse de la motivation, qu'on parle d'économie, qu'on parle de croissance, qu'on nous parle d'intéressement, de participation, de primes pour motiver nos salariés. C'est de ça, et je crois que le MEDEF doit aller beaucoup plus maintenant que les réformes sont en cours.
Monsieur Gadet,
juste
pour l'économie, mot très rapidement ce que vous êtes en train de rejeter d'un revers de main, c'est d'écrire dans le code civil que les entreprises doivent considérer les enjeux sociaux environnementaux. Sincèrement, dans 10 ans, on regardera cet article du code et on se demandera jour comment on a pu
C'est quelque chose que les entreprises doivent écrire ou pas. Philippe Vivien,
allez-y. Le pays des lois. Les Chinois nous appellent Fago. Fago, ça veut dire vous êtes le pays des lois.
C'est français aussi.
C'est les Français, mais ça veut dire aussi pays des lois. Et donc, je pense que si vous voulez, il faut simplifier les lois. Nous avons 80 codes et 400 000 normes. Moi, ce que j'attends de nos députés, ce que j'attends de notre gouvernement, pour qu'on aille encore mieux, qu'on se développe encore plus rapidement, c'est qu'on divise par deux tous ces codes et toutes ces normes.
Mais nous instaurons le droit à l'erreur. C'est le signal le plus fort qu'on peut adresser.
Philippe Vivien, allez-y, Philippe.
Ce qui est très compliqué dans notre discussion, c'est comme toujours dans ce pays, c'est que il faut rechercher des situations de balance, des situations d'équilibre. Et on peut pas d'un côté négocier zéro cotisation versus non. Je crois que la question qu'il faut tous qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que ça va? Je suis assez d'accord dans le sens de l'histoire. Je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui, il faut qu'on rende l'attractivité des entreprises plus forte. Évidemment, vis-à-vis, je dirais, des actionnaires, mais aussi des salariés. Quand les salariés comprennent que la façon dont on va gérer l'entreprise est une situation qui va permettre un développement environnemental, sociétal et social, je crois que ça va dans le bon sens. Après, l'enjeu de l'obligation, de l'optionnel, je crois que là, on est tous en train de faire des... Enfin, je pense qu'on est sur un faux combat. Bon. Le vrai combat, c'est que les choses se fassent.
Bon, en tout cas, je
rejoins Pierre Gattaz.
Pierre Gattaz, il va laisser sa place le 3 juillet. Vous allez rentrer un peu dans la campagne, vous allez prendre parti ou pas?
Non, je crois pas.
Quel conseil vous allez donner à votre successeur?
On a 7 très bons candidats pour l'instant, alors des personnalités différentes.
Oui, tout
à fait. Que, voilà, ils ont des programmes.
On est loin du MEDEF de combat que vous avez voulu quand même.
Je crois qu'en effet, le monde a changé, puisqu'en fait, j'étais dans un MEDEF de combat parce qu'il fallait faire bouger les choses et parce qu'il fallait se défendre. Et fallait, sinon, c'était vraiment extrêmement grave pour le pays. Je crois que maintenant, avec Emmanuel Macron et ce gouvernement, il y a des bonnes réformes, on en a parlé, qui se passent.
Le MEDEF, encore une pertinence, une existence, une légitimité, comme le demandait Mathieu.
Bien sûr, parce qu'il faut continuer, il faut faire attention justement que ça ne dérive pas, il faut vraiment qu'on joue notre rôle d'embaucher, d'investir, etc. Il faut qu'on simplifie, je dirais, cet environnement législatif réglementaire. Et ça, c'est un sujet. Il faut qu'on baisse les dépenses publiques. Il faut qu'on aide. Il faut qu'on accompagne. Il faut qu'on propose. Il faut qu'on fasse du benchmarking. Et on aura un rôle d'accompagnement beaucoup plus fort.
Il faut sortir aussi du paritarisme, d'organisation.
Moi, je crois qu'il faut trier le paritarisme. Il faut trier le paritarisme.
L'État va mettre la main sur le paritarisme, le dialogue social.
Je crois qu'on peut plus vivre. Le modèle social français a vécu. Il a bien vécu. Aujourd'hui, nous avons un paritarisme qu'il faut modifier, qu'il faut optimiser. Il y a celui de gestion, il y a celui de négociation. Je crois qu'avec l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est aux entreprises de s'adapter avec les salariés.
Mais est-ce qu'on pourrait empêcher l'État de mettre la main sur le paritarisme?
Mais je pense que si l'État, il faut faire comme Schroeder Hartz. Il y a des moments, si vous voulez, moi je l'ai fait. Je peux pas tout négocier avec les partenaires sociaux. J'ai essayé de faire des négociations de rupture, ce qui était impossible. Et donc, il y a des moments, il faut que l'État, éclairé si possible, prenne la main, éventuellement redonne la main 2-3 ans après, comme Schroeder et Hartz l'ont fait en Allemagne en 2003. Et je crois que
c'est provisoirement.
Par contre, il faut trier, optimiser ce paritarisme.
Et Pierre Gattaz, il va faire quoi donc à partir du 4 juillet? Donc,
j'ai ma société radiale qui me manque
toujours, beaucoup,
ETI patrimoniale. Il y a des défis formidables. Je vais m'occuper sans doute de Business Europe, qui est le patronat européen.
Il y a un peu de vin aussi, je crois.
Et je ferai, j'ai une exploitation en effet de.
Qu'est-ce que c'est le vin?
Dans le midi, je vais.
C'est où ça?
C'est du côté d'Aix-en-Provence et exploitation vinicole. Je vais peut-être me lancer dans le vin. Je vais sans doute, certainement d'ailleurs, puisque c'est une exploitation vinicole.
Existante. Un château dont la légende urbaine dit que Steve Jobs aurait même eu des vues sur ce château.
C'est une propriété. On appelle ça le château parce que c'est dans le vin, mais c'est une propriété qui fait du vin.
On va se quitter. Juste, un dernier mot. On n'a pas du tout parlé de l'Iran. On peut encore faire du business. Les entreprises françaises en Iran. Allez, ça sera le mot de la fin. On se dit au revoir, Pierre Gattaz.
C'est un vrai sujet. Je crois que le sujet est politique et la réponse doit doit être politique et européenne. Donc c'est très bien qu'il y ait une réunion avec le ministre concerné. Ouais. Je crois qu'il faut être ferme. Je crois qu'il faut rassurer les grandes entreprises, les TPE, les ETI.
Elles vont pas se faire taper sur les doigts par les Américains.
Il faut être extrêmement prudent. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution simple à ce sujet-là.
Les sanctions extraterritoriales. Plus
on sera européen et plus la solution sera européenne et plus on sera fort face à, je dirais, à des géants que sont la Chine ou les États-Unis.
Oui, je pense qu'il faut dire les choses clairement. L'Europe ne doit pas être le vassal des États-Unis sur cette question. Et donc oui, il faut soutenir nos entreprises françaises si elles souhaitent rester en Iran.
Ce que disait Bruno Le Maire la semaine dernière au moment où on apprenait donc bien toutes ces sanctions donc brandies par le président Trump. Merci Pierre Gattaz, président du MEDEF et ensuite à la tête de Business Europe, peut-être viticulteur. Voilà, donc merci à vous d'être venu dans les décodeurs de l'écho. Mathieu Jolivet, reporter à BFM Business. Philippe Vivien, directeur général du cabinet de relations sociales Alixio. Et Stanislas Guérini, député La République en marche de Paris. Voilà, c'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient, allez, il y a plus grand, plus fort ce mercredi soir, et puis on reviendra jeudi, j'espère.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.